j'ai certains principes dans le commerce, j'ai certaines valeurs que je défends, et au final, ça me complique pas mal la tâche parce que je veux tellement sortir un produit parfait que j'arrive pas à rester concentré sur une tâche, et au final, je m'y perds. Et à la fin, c'est vrai que c'est assez compliqué. Bien entendu, quand tu es trop dispersé, tu fais rien de bien. Les enseignements que je tire de toutes ces expériences, parce que j'ai eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas, je pense qu'il faut vraiment, vraiment bien s'entourer dans le business. Il faut faire ce qu'on sait faire et pas essayer de tout faire à la fois, parce qu'au final, quand tu fais tout, tu fais rien. Vraiment bien s'entourer, rester concentré sur ce qu'on sait faire. Sinon, on peut vite perdre le fil et au final, tu te casses la gueule.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence.
Salut Aïkel.
Salut Alec.
Comment tu vas ?
Ça va, merci, et toi ?
Eh bien écoute, ça va, je suis en excellente forme, je suis très content de t'avoir ici aujourd'hui sur le podcast Le Déclic avec moi, pour deux raisons. La première, on se connaît un petit peu maintenant, on a même encore récemment partagé un déjeuner ensemble dans lequel tu as pu plus en profondeur me partager ton parcours, et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic et je me suis dit qu'il fallait que tu viennes. Et la seconde, parce que tu fais partie des auditeurs peut-être même les plus fidèles du podcast Le Déclic, et je sais qu'aujourd'hui on va faire un super épisode ensemble.
Bah écoute Alec, c'est moi qui te remercie de me donner cet honneur de pouvoir être sur ton podcast. Comme tu as dit, je suis un auditeur très fidèle et je ne pensais pas m'y retrouver aussi rapidement alors que j'avais quand même ma petite idée et je me suis dit un jour il va falloir que je finisse sur ce podcast.
Eh bien écoute, avec plaisir. Donc avec elle, je vais rapidement te présenter et ensuite j'aurai pas mal de questions à te poser. On va rebondir sur ton parcours, on va voir qu'il y a pas mal de valeurs qui va justement sortir de tout ça. Donc tu as un parcours bien rempli, partant de livreur de pizza pour devenir aujourd'hui une référence ici à Dubaï, mais un entrepreneur aussi reconnu, pas juste quelqu'un qui est présent sur les réseaux, qui est visible et influent. Tu es originaire du sud de la France, tu as entrepris dès ton plus jeune âge, tu as commencé par gérer un restaurant avant de te lancer dans le commerce physique. Un projet qui, eh bien, malgré tout, ne s'est pas passé comme prévu. Puis, tu as ouvert ensuite ton propre food truck en 2014, qui, lui, a un énorme succès. À la suite de quoi, tu reprends trois autres établissements avant de te diversifier en ouvrant un barbershop. Et un jour, tu décides de tout vendre et tu prends la décision de déménager à Dubaï juste avant la pandémie de Covid-19. Tu te lances, une fois que tu arrives dans le tourisme, un véritable succès, puisqu'aujourd'hui, tu es une référence dans le tourisme à Dubaï et même t'es connu à l'international pour ça. Tu as accompagné plusieurs milliers de touristes dans leur voyage. Tu cumules aussi près de 500 000 abonnés sur tes différentes plateformes de réseaux sociaux avec notamment le pseudo Guide in Dubaï. Tu es aussi à la tête d'une agence immobilière ici à Dubaï et actuellement, tu te concentres notamment sur le lancement de ton application mobile qui s'appelle Guide in City, qui est du coup la suite de Guide in Dubaï qui va permettre à tout à chacun de pouvoir avoir des points de référence, quelle que soit la ville dans laquelle il se trouve, par rapport à sa capacité à pouvoir visiter ou avoir des activités, etc. On en parlera rapidement, on a même pu travailler ensemble dans le cadre d'entrepreneurs.com sur ce projet. Donc j'ai hâte justement qu'on puisse échanger sur tous ces sujets, mais avant ça, revenons sur ton parcours, sur tes débuts. Tu commences en tant que livreur de pizza pour devenir par la suite gérant d'un restaurant. Quel a été ce déclic qui fait que tu te lances? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une prise de conscience? Mais finalement, qu'est-ce qui fait que tu te dis « je veux me lancer dans l'entrepreneuriat coûte que coûte » ?
Ben écoute, honnêtement, c'était une opportunité. C'était une opportunité qui n'était vraiment pas prévue. Et vu que je suis quelqu'un qui aime bien saisir les opportunités, je n'ai pas trop réfléchi et je me suis lancé.
Ok. Et qu'est-ce qui fait que justement tu t'es lancé comme ça spontanément? Parce que aujourd'hui encore, tu vois, l'entrepreneuriat c'est assez à la mode. On peut se lancer sans trop de difficultés grâce à Internet. Or, au moment où tu te lances, c'est loin d'être à la mode. Les barrières à l'entrée sont complètement différentes. Je ne sais pas si tu avais dans ton entourage proche ou moins proche ou familial de grands entrepreneurs, mais peut-être que c'était pas le cas, peut-être que c'était le cas. Qu'est-ce qui fait finalement que tu as le courage d'oser te lancer là où la plupart des gens n'osent pas?
Alors, pour être honnête avec toi, je pense que le temps m'a fait comprendre que j'avais ça dans le sang. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne le savais pas du tout. C'est vrai que voilà, moi, j'étais Ouais, j'aimais tout ce qui touchait le business. Nous, on est dans le sud de la France. Il y avait pas mal de belles affaires, pas mal de beaux restaurants qui fonctionnaient. Et on s'est toujours dit avec un ami à moi qu'un jour, on aurait peut-être notre restaurant. Et au final, cette opportunité a été saisie assez rapidement. Bon, maintenant, avec le recul, je le referai pas, dans le sens où c'est vrai que quelqu'un qui te propose la gérance d'un restaurant en plein port de la Ciotat, sans avancer un seul euro, c'est qu'il y avait quand même un petit problème derrière. Mais voilà, on s'est lancé sans réfléchir. On a fait des choses intéressantes, mais c'est vrai qu'on avait pas du tout d'expérience. Mais au final, c'est une expérience qui, malgré tout, reste positive.
Complètement. Et avec du recul, du début de carrière en tant que livreur de pizza, gérant de restaurant, jusqu'au lancement de ton food truck en 2014, quelles sont les plus grosses difficultés auxquelles tu as fait face, que tu as rencontrées dans la gestion de ces business physiques ?
Alors, les plus grosses difficultés, honnêtement, c'est du fait que j'ai certains principes dans le commerce, j'ai certaines valeurs que je défends. Et au final, ça me complique pas mal la tâche parce que je veux tellement sortir un produit parfait, je veux tellement que tout soit parfait que je n'arrive pas à rester concentré sur une tâche et au final, je m'y perds. Et à la fin, c'est vrai que c'est assez compliqué car des fois, tu te retrouves à être au four et au moulin. Et au final, moi, c'est ce qui est dans tous les business que j'ai lancés, c'est ce qui m'a un petit peu fait perdre un petit peu la flamme que j'avais sur ces business. Parce que c'est vrai qu'un business physique, c'est surtout dans la restauration, c'est vraiment, vraiment très, très compliqué.
Ouais. Et c'est quoi les enseignements que tu retires de toutes ces expériences avec du recul ?
Alors, les enseignements que je tire de toutes ces expériences, honnêtement, bon, business physique, déjà, je pense que pour moi, c'est terminé. Mais après, je pense qu'il faut vraiment, vraiment bien s'entourer. Il faut bien s'entourer dans le business. Il faut faire ce qu'on sait faire et pas essayer de tout faire à la fois parce qu'au final, quand tu fais tout, tu fais rien. Et vraiment, voilà, vraiment bien s'entourer, rester concentré sur ce qu'on sait faire parce que sinon, on peut vite perdre le fil et au final, tu te casses la gueule, quoi.
Ouais. Ouais, justement, et tu dis quelque chose d'assez intéressant. Tu dis « business physique, pour moi, c'est terminé ». Pourtant, tu as quand même réussi à avoir de très beaux résultats avec la plupart de tes business physiques. Une réussite qui n'est pas commune, surtout qu'aujourd'hui, bon, tu le sais, tu l'as découvert. Lancer un business physique, c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'un projet qui est 100% digitalisé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te dis les business physiques, c'est complètement terminé pour moi ?
Ah, c'est clairement le jour et la nuit, un business physique et un business digitalisé. Déjà, un business physique, tu dois trouver un local, tu dois faire des travaux, tu dois respecter des normes, que ce soit des normes de sécurité. Il y a beaucoup, beaucoup de barrières en fait avant d'aboutir à l'ouverture de ton business. Et une fois que tu as ouvert ce business-là, tu es tenu par un business physique, tu es tenu par un local, tu es tenu par un loyer, tu es tenu par pas mal de choses. Donc au final, déjà, je trouve que c'est déjà pas mal de maux de tête. Après, attention, il y a beaucoup de business physique qui fonctionnent bien, mais aujourd'hui, moi, pour avoir vraiment fait les deux, pour rien, mais vraiment rien au monde, je retournerai dans les business physiques. Aujourd'hui, un business dans le digital, comme je l'ai expliqué à ma femme, tu as ta boutique qui est ouverte 24 heures sur 24, qui est accessible par le monde entier. Après, bon, bien entendu, il faut mettre les bons ingrédients pour que ta boutique tourne, mais c'est sûr que par rapport à un business physique, ça n'a aucun rapport. Et vraiment, vraiment, je te parle sincèrement, j'ai beaucoup d'opportunités sur des business physiques, surtout à Dubaï, mais je ne veux vraiment pas en entendre parler. Alors, je ne dis pas que ça sera définitif, mais je l'espère en tout cas. Le bien-être que tu as quand tu es dans le digital, il est incomparable.
Ouais. Je mets le doigt également sur quelque chose que tu évoques de manière indirecte. Tu dis « je ne veux pas en entendre parler ». Tu ne veux pas en entendre parler finalement non pas par manque de potentiel, mais plus par coût d'opportunité. Et c'est aussi un élément sous-jacent du focus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es concentré et tu es focus sur d'autres choses. Est-ce que dans le passé, tu as eu tendance peut-être à être trop diversifié et du coup payer le prix de la diversification sur différents projets, qui ne t'ont pas permis d'aller au bout des choses ou exploiter ton plein potentiel, ce qui fait qu'aujourd'hui tu veux être focus ou pas du tout?
Bien entendu, quand tu es trop dispersé, comme j'ai dit dans le début du podcast, tu fais rien de bien. Tu fais rien de bien. Alors moi, comme je t'ai dit, j'ai vraiment la conscience de toujours vouloir faire de la perfection. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, soit tu craques ou soit au final, tu fais mal, quoi. Donc, non, moi, franchement, je suis traumatisé par le business physique. Je suis traumatisé par le business physique et j'aime trop le digital, en fait. C'est-à-dire, en gros, vraiment, tu passes vraiment du coq à l'âne. En termes de tranquillité, ça n'a aucun rapport.
Et justement, c'est quoi qui a créé ce traumatisme? Parce que c'est pas anodin le fait que tu dis je suis traumatisé par le business physique, sachant qu'en plus là, on a la chance pour celles et ceux qui nous écoutent d'avoir vraiment quelqu'un qui a créé plusieurs business physiques, a échoué dans certains, a réussi dans d'autres, et qui aujourd'hui est plus sur des business digitalisés ou partiellement digitalisés, qui réussit très bien aussi dans ceux-ci et qui a la conscience et la capacité de faire la part des choses et de pouvoir comparer. Toi, tu dis le mot « j'ai été traumatisé par les business physiques », c'est un mot fort. Qu'est-ce qui t'a traumatisé et qu'est-ce qui fait que malgré le fait que tu aies eu des résultats dans cette industrie, tu sois traumatisé?
Écoute, moi par exemple, j'étais dans la restauration rapide. Il faut savoir que pour un petit snack, comme on l'appelle chez nous, tu as besoin quand même d'avoir pas mal d'employés. Que ce soit un employé en caisse, minimum 2 employés en cuisine, 1 voire 2 livreurs. Donc les employés, bon, tu le sais très bien, je pense que tu le sais mieux que moi, c'est pas tout le temps facile. Moi, tous les matins, je me demandais qu'est-ce qui allait se passer. Alors lui, il a sa voiture qui est tombée en panne, l'autre, il a eu un empêchement, il n'a pas pu venir. Alors quand c'est pas lui, c'est le fournisseur, les frites, ils se sont trompés de frites, les steaks, il n'y a plus de steaks. Donc au final, en fait, tous les matins, je me disais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. Et pour au final, quand tu vois quand tu fais le delta entre la prise de tête et le résultat financier, je me dis non, mais c'est pas possible. T'as pas de vie, tu as tous les jours des problèmes, et au final, pour pas grand-chose, j'ai envie de te dire. Alors que là, par exemple, tu vois, là, je suis en train de lancer mon application, comme tu as dit tout à l'heure. C'est un projet qui est énorme et je n'ai pas besoin d'avoir énormément d'employés. Donc, quand tu regardes, comme je t'ai dit, le delta prise de tête et bénéfice, il n'y a pas photo. Alors, au-delà de ça, quand ce n'est pas l'employé, c'est la friteuse qui ne marche plus. Tu as toujours un problème. En fait, dans le business physique, il faut savoir que tu as toujours un problème.
Ouais, complètement. Et justement, à un moment donné, en 2019-2020, tu prends la décision de vendre toutes tes entreprises en France pour démarrer une nouvelle vie à Dubaï. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce grand changement? Est-ce qu'il y a un événement spécifique ou une prise de conscience qui t'a incité à franchir le pas?
Ça, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie déjà, pour commencer. Alors, il faut savoir, moi, je suis quelqu'un qui aime pas mal voyager et j'ai toujours eu ce rêve au fond de moi de m'expatrier, d'aller faire du business à l'étranger. Alors moi, à la base, j'étais un grand amoureux de la Thaïlande, mais sauf qu'en Thaïlande, faire du business, c'est un petit peu compliqué. Gagner de l'argent en Thaïlande, ce n'est pas le meilleur endroit. Et j'ai connu Dubaï. J'ai connu Dubaï et c'est là que j'ai... tu connais Dubaï autant que moi, toute sa grandeur, tout ce que tu peux trouver à Dubaï. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ici qu'il faut que je vive. C'est ici qu'il faut que je vive. Alors, je ne te mens pas qu'à la sortie d'un rendez-vous avec un collègue à moi qui vit ici, je me suis dit non, mais il faut que je trouve comment pouvoir vivre à Dubaï. Il faut que je trouve un business. Alors, vu que j'étais à la base dans la restauration rapide, je me suis dit pourquoi pas la restauration rapide. Mais quand je me suis rendu compte de la concurrence qu'il y avait dans la restauration rapide et les standards de Dubaï en termes d'infrastructure, tout ça, ça n'a aucun rapport avec la France. C'est-à-dire, en gros, même un petit snack, ça coûte beaucoup plus cher qu'en France, dans le sens où voilà, il faut se mettre au niveau de Dubaï, quoi. Donc, j'ai vite laissé tomber l'idée de me lancer dans ce que je savais faire. Heureusement, parce qu'au final, quand je vois le nombre de business physiques qui ouvrent et qui ferment dans les 6 mois qui suivent à Dubaï, c'est incroyable. Donc, je me suis dit, vu que je suis quelqu'un qui aime bien voyager, j'étais un petit peu déjà suivi à l'époque sur les réseaux, mais ça n'avait aucun rapport avec ce qu'il en est aujourd'hui. Pourquoi pas me lancer dans ce que je sais faire, le tourisme. Et au-delà de ça, en fait, j'ai un ami à moi qui m'a dit, Michael, tu devrais faire attention parce que des conciergeries, c'est comme ça qu'on les appelle à Dubaï, il y en a beaucoup. Tu peux même trouver le cuistot du restaurant, on ne va pas donner de nom, lui aussi, il a une conciergerie. Donc, fais attention quand même. Je m'inquiète pour toi parce que tu es mon ami, tu as une famille. Donc, fais attention. Et là, ben, j'ai eu la chance qu'on se soit retrouvé confiné pendant quelques mois. Et là, j'ai préparé mon plan d'attaque. Et je me suis dit, il faut que je me différencie de tout le monde. Et à l'époque, alors c'était beaucoup en vogue, les influenceurs qui s'installent à Dubaï. Je me suis dit, ben, il faut que je la joue un petit peu lifestyle à Dubaï, tout en proposant mes activités. Donc, j'ai commencé à établir un plan. Donc, je commençais déjà à communiquer sur ma venue à Dubaï, sur mes réseaux. Et au final, ben, de fil en aiguille, ben, on s'est installé. On s'est installé le 27 août. J'ai commencé, le premier mois, il était un petit peu dur parce qu'il n'y avait pas trop de monde. Bon, après, j'ai eu de la chance parce que bon, malheureusement, grâce au Covid, il n'y avait que Dubaï d'ouvert. Et question de timing, je ne pouvais pas faire mieux. Je ne pouvais pas faire mieux et je me suis retrouvé une année où toute la planète venait à Dubaï à vendre des activités. Donc, au final, j'ai cartonné.
Et donc, tu as évoqué tout à l'heure pourquoi est-ce que tu as choisi Dubaï plutôt qu'un autre pays. C'est pas moi qui vais te contredire. J'adore cet endroit. Je me verrais vivre nulle part ailleurs, en tout cas au moment où on se parle. Du coup, tu lances ta société à Dubaï en février 2020. Donc, un timing qui, à la base, est plutôt délicat puisque le monde entier est frappé par la pandémie, en tout cas peu après. Puis, tu te lances dans le secteur du tourisme, l'un des domaines les plus touchés par la crise, donc un gros risque. Mais finalement, tu le fais parce que aussi, bah, tu le maîtrises et parce que Dubaï est un des seuls pays qui est ouvert en tout cas à partir du mois d'août. Donc, qu'est-ce qui fait que tu te dis c'est maintenant ou jamais, c'est le meilleur moment, plutôt que de te dire, comme la plupart des personnes peut-être l'auraient fait, ça va être compliqué, je me lance en partant de zéro dans l'un des secteurs les plus touchés à cause de cette pandémie. C'est un petit peu contrariant. Mais finalement, c'est ce qui a fait ta réussite et c'est ce qui a fait même ta réussite plutôt fulgurante.
Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Ben en fait, si tu préfères, moi quand je crée ma société à Dubaï, c'est le 20 février à peu près. Donc ça met plus ou moins 2 semaines à se faire. Et je rentre le 9 mars, il me semble. Et 2 jours après, je crois, on est confiné. Donc à la base, moi, quand je crée ma société, c'est que j'avais quand même un petit peu réfléchi à mon projet et je n'avais pas pris conscience de ce qu'était le Covid, quoi. C'est-à-dire, je me suis dit peut-être c'est un petit peu comme une petite grippe, voilà, ça va être un petit peu médiatisé et on ne va plus en parler dans 3 semaines. Sauf que quand on s'est retrouvé confiné à mettre des gants pour aller faire les courses et mettre des masques, je me suis dit ah oui, quand même. Et là, ben, ma femme, elle m'a clairement dit ben, je crois qu'on a fait ça pour rien, on ne va pas partir à Dubaï. Et moi, j'ai un petit côté un petit peu foufou. J'aime bien prendre des risques. Et j'ai une qualité que tu ne pourras pas me lever, c'est que je suis quelqu'un de déterminé. Et là, ben, je me suis dit, ben non, on va à Dubaï, ce n'est pas grave. On verra bien qu'est-ce qui se passera. Et au final, ça a été la folie. Ça a été la folie. Vraiment, y avait toute la planète qui venait à Dubaï, même des gens qui n'étaient pas fans de Dubaï du tout, se sont retrouvés par la force des choses à venir ici en vacances. Et j'ai envie de te dire, 90% de ces gens qui sont venus à Dubaï par la force des choses, qui n'étaient pas pro-Dubaï avant d'y venir, sont tombés amoureux. Il y a des gens qui sont venus en vacances qui ne sont plus repartis, Il y a des gens qui sont venus en vacances qui ont investi de l'argent, parce que c'est vrai que les réseaux, c'est une chose, mais la réalité, Je ne vais pas te l'expliquer, mais bon, voilà, comme tu as dit, moi, je suis exactement du même avis que toi. Je ne me verrais pas vivre ailleurs qu'à Dubaï à l'instant où on parle, bien sûr.
Ouais, complètement. Et pour rester dans le thème et aussi mentalité, business et autres, comment est-ce que toi, tu perçois la différence de mentalité et d'approche du business entre notamment la France et Dubaï ? Est-ce qu'il y a des barrières mentales spécifiques que tu as remarquées? Est-ce qu'il y a des portes qui sont fermées d'un côté et un petit peu moins de l'autre? Est-ce qu'il y a aussi un contexte différent de marché? Parce que là, en l'occurrence, on met en évidence ton parcours parce que tu as plutôt bien réussi, mais on va voir qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas aussi. Mais c'est vrai que souvent, et on n'en parle pas, il y a pas mal d'entrepreneurs français, mais aussi du monde entier, qui viennent à un moment donné à Dubaï, qui pensent, notamment des Français, j'en avais parlé avec pas mal de gens, peut-être même j'en ai déjà parlé avec toi, bah, qui pensent que parce que tu vas créer un business un peu à la française ou autre, les clients t'attendent, ils vont réussir du jour au lendemain, et puis tu vas faire fortune parce que c'est le nouvel Eldorado. Or, le succès n'est pas facile, n'est pas automatique, le travail est quand même nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui tombent de haut, malgré ça, parce que le marché est quand même très concurrentiel. Ici, tu as des champions du monde qui viennent s'affronter, alors que quand tu es dans ta petite ville en France ou autre, ou même à Paris ou à Lyon, le marché concurrentiel est quand même complètement différent, surtout dans les business physiques. Du coup, pour revenir à la question, c'est quoi la différence perçue, toi, entre la France et Dubaï par rapport à ce que je viens d'évoquer ?
Je suis entièrement d'accord avec toi, je te rejoins totalement. Alors, c'est très simple, en France, alors je ne veux pas critiquer la France, qui est mon pays de naissance et mon pays qui m'a fait grandir, mais en France, il y a beaucoup de barrières. Il faut savoir que si tu regardes en France, le plan de vie qu'on pourrait penser parfait, c'est en gros, tu fais des études, tu passes ton diplôme, tu trouves un travail, tu te maries, tu achètes une maison et voilà, c'est un petit peu le French dream, on va dire. Mais pour moi, ça ne me fait pas du tout rêver. Ça ne me fait pas du tout rêver. Donc au final, en fait, moi, j'ai l'impression que le système français est fait pour te faire croire que ça, que ce modèle que je viens de te citer, ça serait la vie parfaite. Mais moi, j'ai toujours été à contresens de ça. Et c'est pour ça qu'à Dubaï, je retrouve clairement les valeurs que je recherche. Donc au final, c'est vrai, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de Français qui ont tenté l'aventure Dubaï. Et comme tu as dit, il y a beaucoup de champions du monde ici. Et même les champions du monde, des fois, ils ne s'en sortent pas. Au final, c'est peut-être parce que justement, même si certains entrepreneurs qui sont venus tenter l'aventure ici avait un niveau au-dessus de la moyenne en France, mais je pense qu'à cause des croyances qu'on a, nous, les Français, dans notre tête, ils n'ont pas réussi à passer le cap pour atteindre le niveau d'exigence qu'il y a à Dubaï. Donc, c'est pour ça que ça a été très compliqué pour pas mal d'entrepreneurs. Il y a même des gens qui ont tout perdu. Hein. Moi, je pense que tout ça est dû à la mentalité, à l'état d'esprit qu'on t'inculque depuis ton plus jeune âge en France, en fait.
Ouais, complètement. Et justement, tu dis, il y a des gens qui ont tout perdu. Dans ton cas, tu m'as raconté une anecdote et je pense que ça peut être intéressant aussi d'en parler ici. Cette fameuse anecdote de la société de jet ski que tu as finalement achetée lorsque tu es arrivé à Dubaï. Est-ce que tu peux en parler justement, nous raconter cette histoire, cette anecdote qui est assez folle finalement et qui pourrait arriver à pratiquement tout le monde, que ce soit à Dubaï, que ce soit en Thaïlande par exemple, tu l'évoquais parce que c'est des choses qui sont arrivées souvent dans ce genre de pays ou même n'importe où ailleurs dans le monde. Comment tu as vécu la chose et qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Alors, cette anecdote-là, ça a été la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie, mais ça a été en même temps la meilleure. Pourquoi ? Alors, il faut savoir, comme je t'ai dit, que je suis arrivé à Dubaï fin août 2020. Le premier mois était un petit peu compliqué. Au bout d'un mois, j'explose sur les réseaux. Je suis en bombe. Je travaille beaucoup, je travaille énormément, je travaille trop même. Mais tout se passe bien. Et au final, j'ai eu pas mal de sollicitations, pas mal de personnes qui désiraient faire du business avec moi parce que voilà, bon. À travers mes réseaux, on pouvait voir que j'étais quelqu'un de sérieux, qui faisait du bon travail. Et au final, un jour, je me suis associé avec une personne et on a eu pour projet d'acheter une base de jet ski. Au final, on a fait plus ou moins le tour de toutes les bases de jet ski de Dubaï et un jour, on est tombé sur une personne qui vendait sa base de jet ski. Et l'affaire était tellement belle et on se sentait tellement en sécurité ici, qu'on n'a pas été regardant sur certaines choses. Après, bon, il y a eu un intervenant au milieu, c'était une personne de confiance qui s'est retrouvée en fait dans la manigance avec le vendeur. Donc au final, en fait, on l'a pas vu venir, et au final, on a acheté une base de jet ski qui ne devait plus exister, même qui à la base n'était pas une base de jet ski. Et au final, ça s'est très mal passé. Et à cause de ça, en fait, il a fallu que je rembourse la somme quasiment de presque un million d'euros. Donc, je te laisse imaginer, tu arrives à Dubaï, tout va bien, au bout de 6 mois, tu t'associes, tu as une base de jet ski sur JBR, donc la plage de Dubaï en face de la Grande Roue, donc tu peux pas faire mieux, j'ai envie de te dire. Et du jour au lendemain, tu te retrouves à te dire, il faut que tu rembourses presque 1 million d'euros. Donc, à cet instant T, les 1 million d'euros, je les ai pas. Bon, je les ai toujours pas aujourd'hui, mais je me dis, en gros, mais je vais faire comment? Je vais faire comment pour remonter cette somme? Et au final, c'est grâce à ça que je me suis mis, que j'ai ouvert mon agence immobilière. Parce que bon, faut savoir que dans l'immobilier à Dubaï, à pas se le cacher, il y a quand même pas mal d'argent. Et que au préalable, je faisais quand même pas mal de publicité pour une agence sur Dubaï. Et je lui ramenais pas mal de clients. Et quand je voyais les sommes que j'arrivais à lui rapporter, je me suis dit, écoute, en fait, il n'y a qu'avec l'immobilier que je vais pouvoir refaire cet argent. Et au final, j'ai ouvert mon agence en février. J'ai refait presque 1 million d'euros en 4 mois. À cause de cette histoire de base de jet ski.
On va en parler justement de la partie immobilier. 1 million d'euros en 4 mois, c'est assez énorme. Effectivement, le marché de l'immobilier à Dubaï est très porteur et très rémunérateur. Mais avant ça, revenons sur la partie réseaux sociaux. C'est à partir de quand finalement que tu t'es lancé sur les réseaux? Comment est-ce que tu as réussi à construire cette visibilité, cette notoriété? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu as des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux, mais à un moment donné, je me souviens, tu m'as donné un chiffre qui est assez dingue. Sur Snapchat, par exemple, tu avais près de 300 000 personnes qui voyaient tes stories parfois, ce qui est énorme, c'est colossal. Enfin, je ne me rends pas compte, mais pour moi, ça me paraît immense, sachant que c'est de l'organique, sans publicité, des gens qui te suivent dans ton quotidien ici à Dubaï. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui pour différentes raisons que tu pourras nous partager si tu veux, mais c'est assez dingue et j'aimerais revenir justement sur ce processus. À partir de quand tu te mets sur les réseaux? Qu'est-ce qui fait que tu exploses littéralement sur les réseaux et pourquoi? Et puis derrière, comment tu entretenais justement cette relation que tu avais établie avec ces followers et ces gens qui te suivaient du monde entier, finalement, majoritairement en francophonie, poursuivre ton lifestyle à Dubaï et qu'après, derrière, tu as pu créer ce que tu as créé?
Écoute, les réseaux sociaux, j'ai toujours été plus ou moins habile avec les réseaux sociaux depuis Facebook. À l'époque, je faisais pas mal de pubs sur Facebook, sur mes divers commerces en France. Et c'est vrai que, alors Snapchat, je sais que ce n'est pas un réseau dont tu parles souvent. Je crois même que c'est peut-être une des premières fois où tu en parles sur ton podcast. Mais Snapchat, il faut savoir que les Français sont très, très, très Snapchat. Donc, c'est un réseau que j'ai développé assez rapidement. Alors, clairement, j'ai fait quoi? J'ai fait des partenariats avec des influenceurs. J'ai fait des partenariats avec des influenceurs. Derrière, à la sortie de ces partenariats, c'est vrai que j'accélérais mon lifestyle pour pouvoir accrocher les followers. Donc, ça a commencé avec un influenceur, deux influenceurs. Bon, après, j'ai fait les influenceurs de la télé-réalité, je ne te mens pas. C'était vraiment pas ce qu'il y avait de plus rentable. Mais bon, ce qui était bien, c'est qu'à l'époque, à Dubaï, on ne payait pas les influenceurs. On faisait un échange d'activités. Admettons, ils voulaient un yacht, je leur louais un yacht, je leur mettais des jet skis. Et nous m'identifier, mais bon, c'était pas rentable. C'était beaucoup plus les influenceurs urbains qui m'ont fait exploser. Mais c'est vrai que Snapchat, ça a vraiment, vraiment, vraiment été la folie assez rapidement. J'ai fait 300 000 vues, j'ai même des fois fait bien plus. Mais franchement, c'est vraiment ce qui m'a permis vraiment de me faire connaître. C'est vraiment ce qui m'a permis de faire exploser ma société de tourisme. Et c'est ce qui m'a permis aussi de vendre pas mal d'appartements sur Dubaï. Donc, au jour d'aujourd'hui, vraiment, Snapchat, c'était vraiment mon réseau de prédilection. Je voulais développer en parallèle Instagram, mais tu vois, par exemple, Instagram, j'ai fait des partenariats avec tous les plus gros influenceurs français. Et en 3 ans, mon Instagram, il était passé de 0 à 20 000 abonnés. Pourtant, j'ai 2 jeux concours où j'ai fait gagner des voyages à Dubaï. Je faisais pas mal de choses. Et je plafonnais à 20 000 abonnés jusqu'à que cet été, j'ai décidé d'être mon propre influenceur. Et je suis passé de 20 000 à 195 000 en 3 mois.
En okay. 3 mois. Et après, ouais. Et justement, excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu peux nous en dire plus sur ce passage de 20 000 à 395 000 en 3 mois, ce qui est énorme. Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Quel type d'audience tu es allé chercher pour pouvoir avoir ce type de résultat?
Alors, c'est 195 000, c'était pas 395 000. Ben alors, c'est très simple. Alors, c'est un petit peu grâce aux conseils que j'ai pêché sur tes podcasts, hein, je vais être honnête avec toi. Un soir, je me suis dit, j'arrivais pas à dormir, je me suis dit, mais comment je vais faire pour pouvoir toucher un public international? J'ai mon anglais, il n'est pas terrible. Faut que j'arrive à trouver une solution, parce que bon, j'avais tenté avec du ads à l'époque, ça n'avait pas marché, quoi. Surtout qu'en fait, je n'avais pas pris la bonne personne. Et je me suis dit, bon, écoute, je vais embaucher une personne en interne dans mes bureaux qui va me faire que du montage vidéo. Et moi, en fait, sur tous les sujets qui intéressent les gens, parce que je les connais tous, parce que ça fait des années que je reçois des milliers de messages sachant ce que les gens recherchent, on va dire. Et en gros, ben, je vais faire des top 5. Et en fait, ma seule phrase que je vais dire en anglais, c'est « the 5 best ». Alors, par exemple, les 5 meilleures piscines. Donc, je disais « the 5 best pool in Dubai ». Et derrière, je te faisais un classement des 5 meilleures piscines. Après, je faisais pareil avec les meilleurs breakfasts. Je faisais pareil avec tout, en fait, les plus beaux hôtels. Et en fait, ça m'a fait exploser. Ça m'a fait exploser. Je m'étais lancé en même temps aussi sur TikTok. Pareil, ça avait explosé à une vitesse incroyable. Et les top 5, ça allait bien 5 minutes. Après, je ne pouvais plus en inventer, on va dire. Et derrière, je me suis décidé à pousser un petit peu plus le contenu. Donc, de rentrer un petit peu plus dans... Par exemple, faire visiter des rats, montrer les meilleurs endroits à des rats pour acheter des souvenirs, pour acheter de l'or. Ouais, des vidéos qui expliquaient un petit peu comment le métro à Dubaï fonctionnait. Je suis rentré un petit peu plus dans du contenu plus détaillé, avec mon anglais très approximatif. Mais je pense que c'est ça qui a beaucoup marché, c'est mon anglais approximatif. Parce que vu que Dubaï, c'est une ville où il y a pas mal d'expatriés, ben les gens, ils sont pas de langue anglaise de naissance, on va dire, et ils comprennent mieux mon anglais que l'anglais parfait d'un anglophone. Donc au final, j'arrive à toucher tout le monde parce que mon anglais, il était, tu vois, avec mon accent français, et tout le monde comprenait mes tips en plus. Donc au final, mes tips, ils étaient utiles, les gens me comprenaient. Et j'ai foncé la tête baissée et j'ai tourné énormément de vidéos. Et c'est comme ça que ça a monté à une vitesse fulgurante.
Ok, donc passage à l'action massive, tu sortais quoi? 1, 2, 3 vidéos par jour, tous les jours?
Alors, je faisais une vidéo par jour. Quoi, en fait, d'accord. Moi, je faisais des journées de tournage, mais je postais une seule vidéo par jour. Parce qu'il faut savoir que quand je me suis mis à faire des vidéos, c'était dans la période de chaleur à Dubaï, et crois-moi que c'était pas facile de tourner. Donc, je pouvais pas poster 3 vidéos par jour parce qu'il aurait fallu que je reste toute la journée dehors, et c'était un petit peu compliqué.
Ouais, 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 effectivement. Je te rejoins. Très intéressant. Et il y a un autre sujet aussi. Beaucoup de gens pensent que les gens qui nous suivent sur les réseaux, notamment Instagram, TikTok ou Snapchat par exemple, ce n'est pas forcément des gens intéressants, qualifiés ou qui ont de l'argent. Et pour prouver aussi à quel point je pense que les gens se trompent, et on le voit, hein, nous en tant que créateurs de contenu, on a les statistiques. D'ailleurs, je pense que les gens qui écoutent le podcast, alors podcast c'est encore plus exacerbé, l'âge moyen du podcast est plus élevé que sur la plupart des réseaux sociaux. La diversité aussi entre hommes et femmes est beaucoup plus équilibrée sur podcast que sur certains réseaux sociaux. Et puis surtout, la qualité des auditeurs est clairement différente en général sur podcast que sur d'autres types de réseaux. Mais on a quand même des gens extrêmement qualifiés qui suivent la plupart de leurs créateurs de contenu préférés sur les réseaux. Et la preuve, dans ton cas, tu disais justement qu'avec quelques stories sur Snapchat ou autre, tu as pu vendre quelques appartements. C'est avec beaucoup d'humilité que tu dis ça, parce que les chiffres Je les connais plus ou moins. Et puis en plus, pour réussir à faire 1 million en 4 mois, il faut quand même en vendre beaucoup, des appartements. Tu avais même été, sauf erreur, un des meilleurs vendeurs de l'un des plus gros promoteurs de Dubaï, il me semble. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette phase où finalement, en faisant juste quelques stories, tu commences à vendre beaucoup d'appartements et c'est parfois des stories qui peuvent rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros, alors que de l'autre côté, tu faisais parfois une story pour mettre en avant un café qui t'avait sollicité, une pizzeria, un jet ski ou quelque chose comme ça. Et du coup, tu commençais à remettre limite en question la pertinence de faire certains types de stories pour pouvoir aussi attirer pleinement profit de la visibilité que tu avais réussi à développer.
Ben oui, c'est clair. C'est clair, comme tu as dit, voilà, c'est grâce à mes réseaux sociaux que j'ai réussi à vendre quelques appartements. Et oui, j'avais fini dans les 20 meilleurs vendeurs d'un très gros promoteur à Dubaï, sachant que ça faisait qu'un mois et demi que j'avais commencé l'immobilier, j'avais fini dans les 20 meilleurs du trimestre. Donc c'était énorme, c'était un petit peu comme se retrouver dans le classement du Ballon d'Or dans les 30 premiers, alors que tu viens de démarrer le foot. Mais bon, ça c'était une très très belle expérience. Maintenant, faut savoir une chose, c'est que moi, voilà, je suis sur les réseaux, on va dire officiellement depuis que je suis à Dubaï. J'ai résisté à pas mal de propositions alléchantes, c'est-à-dire en termes de partenariat, on m'a proposé pas mal de choses et vraiment, je sais pas comment j'ai pu dire non des fois. Des fois, j'arrivais pas à comprendre, mais c'est grâce à ça, j'ai envie de te dire que j'ai réussi à me créer une vraie communauté de personnes qui me font confiance, parce que justement, j'ai pas proposé tout et n'importe quoi sur mes réseaux sociaux. J'essaye de pas être vulgaire, j'essaye de pas faire n'importe quoi sur mes réseaux, parce qu'aujourd'hui, ben on est quand même censé donner l'exemple aux gens qui nous suivent, savoir qu'on a des gens d'un certain âge, mais des gens d'un très jeune âge aussi qui nous suivent. Donc la personne que je suis sur les réseaux, c'est la personne que je suis dans la vie de tous les jours, et je pense que les gens ont réussi à le comprendre au bout de 3 ans ou même au bout de 2 ans. Tu peux te donner un rôle sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui le font, mais après, à un moment donné, tu ne peux plus mentir, quoi, parce que les gens, ils voient ta vraie personnalité. Et moi, c'est ce qui a fait ma force. J'ai craché sur pas mal d'argent, pas mal de collaborations, parce que tout simplement, je n'étais pas convaincu par le produit ou parce que je n'étais pas convaincu par ma rentabilité. Et ça, c'est très, très, très important. J'ai tellement peur de ne pas être rentable qu'on me paye et que derrière, le client n'a pas le retour sur son investissement, que je fais très peu de pub. C'est pas parce que j'ai pas envie d'en faire, c'est parce que j'ai peur de pas être rentable ou que j'aime pas le produit. Mais c'est vrai que grâce à ça, grâce à toutes ces précautions que j'ai pu prendre, j'ai créé du trust. En fait, les gens me font confiance. Moi, j'ai vendu des appartements à des gens par téléphone. Je leur disais, mais si tu veux, demain, je vais sur place, je te montre la maquette et tout. Ils me disent, non, mais t'inquiète pas, Aïkel, on te connaît. Ça fait longtemps que je te suis, je suis toutes tes stories, je te fais confiance. Et cette phrase-là, on me l'a dit trop souvent, j'ai envie de te dire. Et des fois, j'ai même du mal à me dire, mais comment ils font pour me faire confiance à ce point? Parce que là, on ne parle pas d'acheter un pain au chocolat, on parle d'acheter un appartement. Et des fois, on vend des appartements qui valent très, très cher, tu vois. Donc, c'est vrai que je gagne ma vie grâce à mes réseaux sociaux, mais c'est parce que j'ai su montrer avec le temps mon côté droit, sérieux, et ça, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup apprécié. Alors, malgré tout, je fais moins de vues qu'avant, mais parce qu'il y a un tri naturel qui s'est fait sur mes réseaux, c'est-à-dire, en gros, les gens qui cherchent à regarder les bad buzz, qui cherchent à regarder tout et n'importe quoi, ils ont arrêté de me suivre. Mais les gens qui aiment bien l'entrepreneuriat, qui aiment bien le quotidien d'un père de famille, tout ça, franchement, ils sont accro à mes stories, hein, je te dis la vérité.
Ouais, complètement. Tu disais avant, tout à l'heure, j'accélérais mon lifestyle lorsque je faisais des placements ou autres avec des influenceurs pour aller chercher davantage d'abonnés. Accélérer son lifestyle, pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est vraiment faire en sorte de montrer, quoi, faire du show-off. Et puis montrer que tu fais des choses, tu es actif, ça coûte cher, et finalement, surtout quand tu n'es pas forcément aligné à 100% avec ça, c'est une sorte de surenchère constante et permanente pour pouvoir donner ce que les gens veulent voir, alors que finalement, rester soi-même et puis se concentrer sur ses projets et son business, c'est quand même beaucoup plus stimulant. Pour revenir justement à ça, ces projets, ton business, actuellement, donc, tu es concentré surtout sur ton application mobile. Même tes applications mobiles, il y en a plusieurs que tu as justement dans les tuyaux, mais une en particulier. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. Tu nous as contactés, tu t'es posé plein de questions. Et j'avais envie de te poser cette question rapidement ici dans le podcast. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de travailler avec nous? Parce que tu écoutais le podcast, Offerer, tu m'avais dit que tu écoutais le podcast et que tu t'étais dit, bon, peut-être que ça peut être intéressant. Et ensuite, des amis à toi t'ont dit, ouais, c'est quand même cher, attention, ça me paraît cher par rapport au fait de juste donner des conseils, etc. Finalement, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de travailler avec nous spécifiquement? Et je n'ai pas envie de dire qu'est-ce que ça t'a apporté, parce que je n'ai absolument pas envie que ça se tourne en témoignage, mais c'est plus pour mettre en évidence et en exergue aux yeux des gens qui nous écoutent l'importance de l'accompagnement et d'oser justement demander à ce que des gens qui savent et qui font ça au quotidien puissent te tendre la main à un moment donné quand c'est nécessaire pour te faire gagner toi-même du temps et beaucoup d'argent parfois. Du coup, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus?
Alors Alec, merci pour ta modestie. C'est pas un témoignage, hein. Il faut rendre à César ce qui est à César. Tu vois, c'est important de le dire. Alors bon, déjà pour commencer, ben, j'ai commencé à écouter ton podcast. Et dès le premier épisode, ben, tu m'as accroché, hein, je te dis la vérité, tu m'as accroché dès le premier épisode. Et faut savoir que je les ai quasiment tous écoutés. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup appris grâce à ton podcast. Je me pose même la question si tu as assez de recul pour savoir la valeur que tu donnes à tes auditeurs, parce que c'est énorme. C'est-à-dire, tu t'imagines le nombre d'invités intéressant en plus, parce que ça, c'est ce qui fait vraiment la différence sur ton podcast, c'est que tu reçois des vrais invités. Ils te font partager leur expérience, leur vécu, ils te donnent leurs conseils, ils te donnent leur méthode, limite, ils te donnent tout. Alors, je pense qu'ils en gardent un petit peu pour eux. Mais est-ce que tu t'imagines, si tu as un petit peu la tête sur les épaules, d'écouter ton podcast, de prendre des notes sur certaines choses, mais est-ce que tu t'imagines la valeur que tu proposes gratuitement? Donc moi, quand j'ai décidé de lancer mon application, ben, c'est en partie aussi grâce à tout ce que j'ai entendu sur ton podcast, parce que ça motive aussi, on trouve de la motivation. Et vu que mon projet est quand même un projet assez important à mes yeux, et je peux le dire sans prétention que c'est un projet de grande envergure, je ne voulais pas prendre le risque de me tromper. Je ne voulais vraiment pas... Je voulais pas qu'il y ait de fausses notes, en fait, parce que tu sais très bien que les fondations d'un projet sont hyper importantes, parce que des fois, ben, tu peux rattraper, mais au final, ça finit pas tout droit, quoi. Donc, ben, clairement, je me suis dit, ben, écoute, il va falloir que je me fasse accompagner. Et c'était tellement logique que je fasse appel à tes services, ben, parce que j'écoutais plus que toi. C'était aussi une manière de te remercier. Mais au-delà de ça, il faut savoir, alors l'anecdote, elle est assez drôle et elle est véridique, hein. Je ne l'invente pas. Il faut savoir que moi, j'avais fait un devis via un très bon ami à moi pour développer mon application. On avait presque lancé les travaux, on va dire. Et derrière, je décide de te prendre en consulting avec Entrepreneurs. Et lors de notre premier call qu'on a fait, je t'ai demandé par curiosité si tu connaissais un bon développeur. Moi, je vais garder le nom pour moi parce que j'ai encore quelques applications à lui faire et je veux pas qu'on me rattrape. Et en fait, ben le devis qui m'a sorti à la fin, il était 12 000 euros moins cher que le devis de mon ami. Au final, ton accompagnement, je peux parler de prix ou non? Bon, oui, en tout cas, voilà. Ben, ton accompagnement, vu que j'avais pris la formule en paiement différé, en paiement en trois fois, ben, il m'a coûté à peu près 14 000 euros. Et au final, ben, sur le premier call avec toi, j'ai déjà économisé 12 000 euros. Donc, en fait, ton accompagnement, il m'a coûté plus que 2 000 euros. Et il faut savoir qu'au-delà d'une économie, je suis tombé sur des vraies compétences. C'est-à-dire, la personne que tu m'as recommandée, déjà, elle vit sur Dubaï, elle parle la même langue que moi. Et j'avais besoin d'avoir une personne qui connaisse l'univers de Dubaï pour pouvoir mener à bien ce projet comme je le désire. Alors, c'est pas que mon ami n'était pas compétent, mais c'est vrai que d'avoir une vision Dubaï, ça fait vraiment la différence. Donc, au-delà du gain d'argent que j'ai fait grâce à une heure de consulting avec toi, je pense que mon projet, comment dire, il sera beaucoup plus abouti que si j'étais passé par mon ami. Alors, s'il entend ce podcast, il entendra, ne le prends pas mal. Mais, donc, comme quoi, le carnet d'adresses que tu mets aussi à disposition auprès des gens qui te font travailler, ça a une valeur, j'ai envie de te dire, limite, qui n'a pas de prix. Donc, non, ce n'est pas un témoignage, mais c'est logiquement qu'il fallait que je raconte cette anecdote parce que, comme je t'ai dit, au bout d'une heure, et encore, je n'ai pas pris un consulting seulement d'une heure, ben, t'as changé mon projet complètement, mmh. complètement, Alec.
Et je te remercie beaucoup pour ça. Et pour moi, c'est presque normal, ça fait partie de l'équation et je ne me verrais pas faire ça si on n'avait pas ce type de retour, mais ça fait toujours extrêmement plaisir à entendre et j'apprécie beaucoup. Pour en revenir justement à ton projet, ton application, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le détail du concept? Parce que j'ai 2-3 questions justement sur la structuration et sur l'approche que tu as eue. Parce que je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent veulent mettre en place une application mobile à un certain moment, ou un business type SaaS, ou un outil quel qu'il soit. Et finalement, on est sensiblement sur les mêmes fondations.
Alors, mon application, c'est très simple. Elle est très très simple, mais au-delà de ça, elle est très 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 utile. C'est une plateforme qui va référencer quasiment tout type d'entreprise sur Dubaï. Alors, pour te la faire un peu rapide, ben, les restaurants, les voitures de location, tout ce qui est dans le médical, docteur, dentiste, chiro, si tu cherches quelqu'un pour venir nettoyer ta maison, si tu cherches quelqu'un pour venir repeindre ton appartement, si tu cherches une salle de sport, un coach sportif, en fait, tout ce que tu pourrais avoir en besoin sur Dubaï, en 3 clics, en fait, tu peux le trouver sur mon application. Au-delà de ça, bon, j'ai quand même mis des fonctions qui faciliteront la tâche des utilisateurs, avec des boutons d'action, que ce soit pour te rendre directement à la localisation, pour pouvoir réserver directement ton restaurant, ton beach club. Il y a pas mal de petites fonctionnalités et encore, on est en train d'en développer d'autres déjà. Mais en gros, quoi que tu recherche sur Dubaï, tu peux le trouver en 3 clics sur mon application. Alors, cette application, elle est complètement gratuite pour les utilisateurs. Il y aurait un système de récompense qui est en train d'être mis en place grâce à tes conseils. En gros, donc, il y aura des points que tu pourras accumuler si tu mets des avis, si tu parraines un ami. Et avec ces points-là, tu auras des vouchers, c'est-à-dire des bons que tu pourras utiliser dans certains restaurants partenaires ou dans des activités, tout ça, quoi. Donc, en gros, c'est une application que même moi qui connais très, très bien Dubaï, je pourrais m'en servir quasiment tous les jours. Alors, une personne qui vit ici, qui s'installe ou qui vient en vacances, elle est obligée d'avoir cette application si elle est sur Dubaï.
Ouais, c'est vrai que c'est un vrai outil d'aide à la décision et d'accompagnement et surtout de mise en exergue des bons plans et des choses utiles à faire. C'est vrai que surtout dans un endroit comme Dubaï où les choses évoluent très vite et surtout que même après presque 3 ans où j'y vis personnellement, en ayant une vie relativement active, en invitant pas mal de mes collaborateurs ou en passant pas mal de temps avec des amis qui aiment bien justement faire des activités et autres, je me rends compte à chaque fois que je suis très loin d'avoir découvert tout ce que la ville a à offrir parce qu'encore une fois, c'est une ville où des millions de personnes viennent chaque mois pour la visiter, pour vivre l'expérience Dubaï et puis pour pouvoir profiter. C'est aussi une ville vacances, mais une ville business. Donc, il y a une éclecticité des choses qui est assez dingue. Donc, c'est clair. Pour en venir plus à la partie business aussi, je sais que lorsque tu as voulu lancer ton application, ton projet au départ, tu as fait des tentatives, on va dire, de levée de fonds pour le lancement de ton application. Et tu as eu pas mal d'obstacles liés à ça, des investisseurs intéressés qui hésitaient à s'engager financièrement, mais qui finalement ne l'ont pas fait. Tu ne t'es pas laissé abattre car finalement, tu as tout financé tout seul. Qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce qui a fait que tu as gardé tes convictions concernant ce projet, cette application et qui a fait que tu as investi personnellement dans ce projet pour le rendre concret?
Il faut savoir déjà que mon projet, j'ai l'ultime conviction qu'il va cartonner. Donc déjà, ça, c'est ma principale motivation. Ensuite, c'est vrai que j'ai voulu faire des levées de fonds, pas parce que je ne voulais pas sortir de mon propre argent, tout simplement parce que je n'avais pas l'argent pour mener à bien ce projet. Et faut savoir que j'ai sollicité quelques personnes de mon entourage proche et je me suis très vite mis d'accord avec quelqu'un qui est très proche de moi. Et cette personne, quand elle est venue à Dubaï, peut-être 2 mois après notre accord, elle a commencé à se poser beaucoup de questions. Chose que je peux comprendre parce que, bon, mine de rien, on parlait quand même de... Bon, je peux le dire, je voulais lui vendre 50% de mes parts, 300 000 euros à l'époque. Et il commençait à me poser beaucoup de questions. Et encore une fois, les Français avec la mentalité du business physique, il m'a dit « Oui, mais bon, le problème, c'est que si demain, ça ne fonctionne pas, je repars une main devant une main derrière, alors que si demain, même si j'achète un resto ou si j'ouvre une base de jet ski ou si j'achète des voitures pour la location, je peux revendre quelque chose. » Je dis « Oui, tu as raison, mais bon, après, faut savoir que dans la vie, il faut prendre certains risques. » Et moi, pour moi, j'étais tellement convaincu que je n'avais pas trop envie de parler trop longtemps, quoi, en fait. T'es pas intéressé, ok, il n'y a pas de souci, on va pas se fâcher. C'est vrai que derrière, j'ai quand même pris un coup au moral parce que avec cet argent-là, j'avais des projets. Surtout, là, comme tu as pu le dire, je suis sur d'autres applications aussi. Mais je me suis lié d'amitié à Dubaï avec Patrick Pelonero, qui est le fondateur d'Otakos, qui est quand même un entrepreneur à succès, et qui m'a dit, Aïkel, écoute, je ne vois pas pourquoi tu veux faire rentrer quelqu'un dans ton application. Ton application, ça va être une bombe atomique. Même moi, j'aimerais rentrer. Mais moi, ce que je te conseille, c'est un conseil d'ami que je vais te donner. Serre un petit peu la ceinture, cumule tes commissions que tu prends dans l'immobilier et reste seul. Tu seras content de manger ton gâteau tout seul à la fin. Et c'est vrai qu'au final, je l'ai écouté. Malgré que j'ai eu du mal à l'écouter parce que c'est vrai que, comme je t'ai dit, cet argent-là, j'en avais besoin. J'en avais besoin pour mes projets professionnels et même pour un point de vue personnel, tu vois. Et au final, je ne regrette pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai quelques propositions intéressantes et on ne parle pas de 300 000 euros que je refuse catégoriquement. Donc, c'est vrai que les levées de fonds, c'est bien. Mais au final, là, pour le coup, pour cette application-là, je suis bien content d'avoir résisté et d'avoir écouté mon ami.
Et justement, développer une application mobile, c'est un peu le rêve de beaucoup de gens. Surtout, alors peut-être moins maintenant, mais il y a eu une époque où tout le monde se disait « Waouh, je peux être le prochain Facebook, je peux être le prochain Instagram, je vais devenir milliardaire si mon application, elle résout le problème auquel il fallait penser, etc. » Mais développer une application mobile de zéro, ça représente un bon nombre de challenges auxquels finalement on ne s'attend pas forcément. Toi, c'est quoi les principaux éléments auxquels tu as fait face qui, aujourd'hui, avec du recul, tu les anticiperais et tu aurais envie de partager ça à celles et ceux qui nous écoutent pour qu'ils évitent de faire ces erreurs qui t'ont peut-être coûté cher en temps, en énergie ou en argent?
Alors, faut savoir que j'ai eu de la chance quand même que je suis tombé sur un très bon développeur qui m'a beaucoup compris. Alors, ça m'a beaucoup facilité. Mais si je devrais donner un conseil, franchement, anticiper, il faut anticiper pas mal de choses. Tu vois, moi, là, par exemple, mon application, elle aurait dû sortir le 15 décembre. Ça n'a pas pu être possible parce que, voilà, des fois, tu as des histoires d'enroulement avec Google, avec Apple. On n'a pas anticipé sur ça. C'est vrai que j'ai pas été très bon sur ça parce que, bon, il y a tellement de choses à faire aussi que, voilà. Mais bon, après, voilà, faut bien choisir. En vrai, faut bien choisir son développeur. Faut bien réfléchir à toutes les fonctionnalités que tu veux mettre. Encore une fois, moi, j'ai été facilité par mon développeur parce que, on aurait dit mon associé, tellement il me donnait des conseils, même il me donnait des idées. Donc au final, il y a eu aussi ton accompagnement à toi qui a fait que tu m'as donné des idées très, très, très judicieuses. Donc au final, moi, je pense qu'en vrai, le vrai conseil qu'il faut donner, c'est d'être entouré de vrais professionnels avec une vraie expérience dans le développement d'applications et aussi de professionnels comme toi qui peuvent donner des vraies, vraies, vraies astuces qui peuvent complètement changer la donne. Donc oui, aujourd'hui, en fait, j'ai été très facilité parce que j'ai fait le choix de faire appel à toi, de faire confiance au développeur que tu m'as présenté. Et au final, ça a été facile pour moi. C'est juste qu'aujourd'hui, voilà, sur les derniers détails, il y a certains trucs où j'aurais pu anticiper parce que mine de rien, une bonne application, ça met du temps à se faire. Et il y a des trucs que j'aurais pu faire un petit peu avant, mais c'est pas grave. J'ai appris sur celle-là et je vais pas faire la même erreur sur la prochaine que je sortirai, excuse-moi.
Ouais, donc tu es déjà en train d'avoir l'optique d'en sortir d'autres. On en déduit ça. Un autre sujet, si on sort un peu du cadre de l'application, c'est plus sur Dubaï encore une fois. Énormément de gens ont beaucoup d'a priori sur Dubaï. J'ai pas mal parlé de Dubaï il y a de ça quelques semaines, quelques mois sur le podcast. Ces derniers temps, de par la diversité, le changement de certains types d'invités, etc., j'en ai eu un petit peu moins l'occasion. J'ai envie aujourd'hui, vu que j'ai l'occasion avec toi d'en parler, de réévoquer certains sujets et peut-être casser certains préjugés et croyances à l'égard de Dubaï pour celles et ceux qui nous écoutent. Toi aujourd'hui, qui connais Dubaï de A à Z comme ta poche, qui est aussi en lien avec des personnes relativement influentes à Dubaï ou même au niveau de certaines entreprises ou même du gouvernement, qui a pu accueillir des milliers de personnes en tant que touristes ici. Qu'est-ce que tu aurais à dire justement sur tous ces préjugés qu'ont notamment les Français à l'égard de Dubaï ?
Ah, bah écoute, là tu t'adresses à la bonne personne. Alors déjà, il faut savoir que Dubaï, et c'est important, ce n'est pas les influenceurs Dubaï. C'est-à-dire les influenceurs que la plupart des Français suivent à travers les réseaux sociaux, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais ils n'existent pas à Dubaï. C'est-à-dire les plus gros influenceurs que tu vois, les plus connus, ceux qui ont fait des milliers d'émissions de télé-réalité, tu les croises pas et quand ils sortent, eh ben c'est des anonymes. Il y a que quand il y a des Français qui viennent en vacances qui vont demander une photo. Mais donc faut vraiment pas associer Dubaï aux influenceurs, parce qu'il y a des gens qui me disent ouais, j'aimerais venir m'installer à Dubaï, mais c'est bon, il y a les influenceurs là-bas. Mais Dubaï déjà c'est grand. Et comme je vous ai dit, les influenceurs, ils sont dans l'anonymat ici, sauf à travers les Français, mais bon, voilà, après, même à un moment donné, tu les calcules plus. Donc déjà, ça, c'est une des premières des choses, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas venir à Dubaï, parce qu'ils disent, Dubaï, moi, les influenceurs, non, c'est pas ça. Dubaï, c'est... Avec tout ce qui m'est arrivé, tu te rends compte quand même que je t'ai parlé d'une perte de 1 million d'euros, et encore, j'ai eu d'autres galères, hein, je te dis la vérité, j'ai eu d'autres galères, mais je suis l'homme le plus heureux de la planète. Moi, je me lève tous les matins en sifflant. Je remercie le bon Dieu tous les jours d'avoir la chance d'être ici, d'avoir pu installer ma famille ici. Mes enfants, ils sont épanouis, ils parlent 2 langues et demie, ils font des activités sportives, ils rencontrent des gens de tout horizon. Et rien que pour ça, rien que pour mes enfants, déjà, c'est énorme. Mais même moi et ma femme, on est bien ici, on est la sécurité, la propreté, les opportunités, le networking. Alors ça, attention. Ça, tu en parles souvent du networking qui est beaucoup plus facile à Dubaï, mais moi, je tiens à préciser quand même que des fois, tu peux croire que tu rencontres une bonne personne, mais avec un costume de requin, j'ai envie de te dire, parce qu'ici, il faut en prendre et en laisser. Il y a pas mal de personnes malveillantes et tordues, mais au-delà de ça, moi, tu vois, quand je te parle de Dubaï, je pourrais t'en parler jusqu'à demain. Donc oui. Il y a des influenceurs à Dubaï, mais les influenceurs n'existent pas. La sécurité, bon, ça, je pense qu'on n'a même plus besoin d'en parler. La propreté, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant, la propreté. Mais moi, qui étais en France il n'y a pas longtemps, crois-moi que... Ah ouais, j'avais l'impression d'être... je ne vais même pas développer. Il y a quoi encore à Dubaï ? Tu as tout qui est facile. Tu sais, bon, après, voilà, c'est sûr qu'il faut faire entrer de l'argent, mais même aussi... Pas mal de gens pensent que Dubaï, c'est hors de prix. Mais tu sais, quand tu vis à Dubaï et quand tu fais pas la fête tous les jours, et en plus de ça, de faire la fête tous les jours, parce que c'est vrai que tu as l'opportunité de la faire tous les jours, mais après, tu n'apprécies même plus. Mais quand tu vis à Dubaï, que tu vis comme quelqu'un de normal qui travaille, qui va faire son sport, qui va faire ses courses et qui, de temps en temps, se fait plaisir, c'est pas beaucoup plus cher que la France. Et j'ai envie de te dire, le rapport qualité-prix, si tu prends vraiment le rapport qualité-prix en fonction de la prestation que Dubaï t'offre et le prix que tu payes, c'est pas cher du tout. Moi, j'étais à New York cet été, crois-moi que j'étais choqué par les prix, alors que New York, tu vois, c'est sale, c'est pas safe, c'est pas pareil, tu n'as pas la même prestation. À Dubaï, tu t'imagines le nombre de malls, alors les malls, pour ceux qui connaissent pas, c'est des centres commerciaux, le nombre de malls que tu as, le nombre d'infrastructures dernier cri, non, c'est incroyable. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, alors ça va peut-être te paraître prétentieux, alors que franchement, pas du tout, mais la personne qui va critiquer Dubaï, qui va dire non, moi, Dubaï, j'ai essayé, j'ai pas aimé, c'est tout simplement qu'elle a pas réussi. Ou, tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu ne peux pas, après, attention, il peut y avoir des exceptions quand même, mais tu ne peux pas dire que tu n'as pas aimé vivre à Dubaï. Je vois pas ce qui pourrait, tu vois ce que je veux dire? Après, voilà, comme si il peut y avoir des exceptions, mais la qualité de vie, elle est tellement incroyable que tu peux pas, je t'ai dit, moi, j'ai, tous les matins, je remercie le bon Dieu, je vais à mon bureau en sifflant, je marche dans mon parc, je suis comme un enfant qui rentre à Disneyland, quoi. C'est magnifique. Et en plus de ça, voilà, si tu es un petit peu bon dans le business, si tu te trompes pas, moi, vraiment, je recommande pas le business physique, mais si tu te trompes pas dans le business et que tu prends le temps de faire prendre les choses, il y a pas mieux. La vérité, il y a pas mieux. Et je te parle avec le cœur, Alec, hein. Je n'ai pas réfléchi tout ce que je te dis là. C'est vraiment, je me vois vraiment pas vivre ailleurs et j'espère pouvoir rester ici le plus longtemps possible.
Ouais, je te rejoins sur bon nombre de sujets, effectivement, et c'est vrai qu'un point, pour la plupart des gens qui est souvent critique Dubaï, c'est soit qu'ils ne sont pas alignés à certaines choses d'un point de vue de leurs valeurs profondes, que ce soit, par exemple, souvent c'est le sujet de l'écologie, souvent c'est le sujet des travailleurs ou autre, mais finalement, c'est qu'ils n'ont pas forcément creusé sur les réels enjeux et les actions qui sont mises en place, que ce soit pour l'un ou l'autre de ces sujets ici à Dubaï et dans les Émirats au global. Premier point. Deuxième point, très souvent les gens qui critiquent, ce sont des gens qui ne sont jamais venus et qui, une fois qu'ils sont réellement venus et qu'ils ont vu la vie ici, donc la vie de vacances, mais la vie aussi de vie réelle du quotidien, changent d'avis. C'était par exemple le cas de Oussama, avec qui je m'entends très très bien, et qui dit souvent « je ne me verrai jamais vivre ailleurs qu'à Dubaï », qui a même là maintenant un projet de créer un quartier carrément à Dubaï, une sorte de mini-village, et qui pourtant, au départ, détestait Dubaï, avait des a priori négatifs, il disait « jamais je viendrai là-bas ». Il est venu au bout de 3 jours, il ne voulait plus partir, au bout de 2 semaines, il savait qu'il allait vivre ici. Donc, ouais, c'est assez intéressant de voir la chose comme ça. Un autre sujet aussi, c'est que au niveau de Dubaï au global par rapport au business, c'est quoi la facilité de créer un business ici à Dubaï pour celles et ceux qui nous écoutent? On a beaucoup d'entrepreneurs. Alors cette question, je l'avais déjà posée plus spécifiquement aussi dans un podcast que j'avais fait avec Maxime Gauthier, le fondateur de Maje. Mais toi qui as l'habitude et qui, j'imagine, souvent, on te pose la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour les impôts, même si maintenant, il n'y a plus 0%. D'ailleurs, c'est très drôle. Tous les gens qui n'aiment pas Dubaï adorent me contacter, me rappeler que maintenant, à Dubaï, il y a des impôts, alors que finalement, moi, je ne suis jamais venu à Dubaï pour les impôts. Mais c'est quoi la facilité, justement, de création d'une entreprise et les possibilités, et surtout l'accessibilité de la chose pour celles et ceux qui nous écoutent?
Alors, il faut savoir qu'à Dubaï, je pense qu'un de leurs plus gros business, c'est justement les créations de sociétés. Tu as des bureaux, je pense que tu as dû le constater, des bureaux gouvernementaux un petit peu partout. Et il y a toujours du monde comme pas possible. Donc, la facilité pour créer ta société, ça, c'est la première des choses. Alors, bon, si je peux donner quand même un conseil à ce niveau-là, c'est déjà de bien choisir avec qui faire, parce que ça aussi, c'est encore un sujet un petit peu particulier, et de tout faire dans les règles de l'art. Parce que franchement, l'avantage à Dubaï, c'est que tout est digitalisé, tout est lié à notre UAE Pass, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, il y a tout qui est lié à ce truc-là, et s'il y a une virgule qui n'est pas à sa place, c'est galère. Mais en tout cas, si tu fais bien les choses avec les bonnes personnes, déjà, c'est très facile, tu as accès à tout, toutes les infos sur ton entreprise, à pas mal de choses. Bon, en France, on a société.com, mais bon, c'est un petit peu limité. Là, vraiment, pour le coup, tu vas sur l'application Moré, tu te dis, c'est pas possible. Tu as tout, surtout. Faut pas croire. Alors, attention aussi, tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Alors, les travailleurs ici, ils sont protégés et ils sont contents d'être là. D'ailleurs, je fais pas mal de vidéos en ce moment sur ça. Mais c'est très facile. En fait, si tu veux faire ici, tu fais. Tu veux faire ici, tu fais. Et par rapport à la corporate tax que tu as dit de 9%, faut vraiment gagner énormément d'argent pour en payer. Parce qu'il faut savoir déjà que tu es éligible à la corporate tax de 9% après 375 000 dirhams net de bénéfices. c'est-à-dire à peu près 100 000 euros. Et derrière, ben, tu peux mettre tous tes frais, t'as ton salaire, tu as pas mal de choses à mettre dans la balance avant d'en payer. Donc oui, il y a 9%, ça reste très peu, mais les gens, ils sont contents. Les gens, ils sont contents quand ils ouvrent leur société ici, quand ça se passe bien, parce que voilà, c'est comme je t'ai dit, et vraiment, c'est vraiment important. Faut bien faire les choses. Faut bien faire les choses, mais sinon, c'est très facile. L'accès à la création de la société, c'est facile. Et développer ton business, après, tu as tellement d'entrepreneurs de haut niveau, comme tu l'as dit, autour de toi, que c'est pas compliqué si tu fais les choses dans les règles de l'art, bien sûr.
Complètement. J'ai une dernière question à te poser, comme j'aime la poser à chaque personne qui passe sur le podcast Le Déclic. Mais avant ça, je te remercie pour cet échange, pour cette discussion et pour tes partages, pour ton parcours, les hauts, les bas, ta vision du business physique, ta vision du business en ligne, ta vision de Dubaï également, les réseaux sociaux. Merci pour ça, ça fait super plaisir d'avoir eu cet échange avec toi et celles et ceux qui nous... avec plaisir et celles et ceux qui nous écoutent. Si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, eh bien, comme à chaque fois, mettez les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Allez interagir sur le post LinkedIn qu'on fera spécifiquement pour cet effet. Et puis, on mettra tes liens de façon à ce que les gens qui le désirent puissent te retrouver sur les réseaux. Quel est le déclic qui a littéralement créé chez toi une transformation, je dirais, identitaire? Ça peut être une situation, une citation, une simple phrase, quelque chose de positif, quelque chose de moins positif. Tu as vraiment carte blanche pour le mot de la fin, mais quelque chose que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de cet épisode.
Alors, bon, moi, j'ai eu pas mal de déclics dans ma vie parce que j'ai eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas, mais pour parler de quelque chose qui est arrivé récemment, alors il faut savoir que quand j'ai épongé la dette d'un million d'euros, j'ai pris un petit peu du temps pour me reconstruire, on va dire, et j'ai commencé à me mettre un petit peu à regarder des vidéos TikTok. Et bon, tu connais TikTok, faut en prendre, en laisser. Moi, mon algorithme, il était très, très basé sur le business. Et bon, tu avais les gars qui te disaient si tu veux gagner 10 000 euros par mois sans rien faire, ou si tu veux, bon, tu vois de quoi je parle. Marie, qu'ils disent pas que des bêtises, hein, parce qu'il y a quand même des trucs à prendre quand même dans ce qu'ils disent. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo où il était dit les 5 livres que tu dois avoir et que tu dois lire absolument. Et dans ces livres-là, il y avait le livre Power, je ne sais pas si tu vois lequel c'est, et un autre livre qui m'avait pas emballé à la base. Alors moi, il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui lit du tout, et qui s'appelle Avaler le crapaud. Alors figure-toi que j'ai voulu commander les 5 livres, alors les 3 autres, je ne me rappelle pas parce que je ne les ai pas eus, ils n'étaient pas disponibles sur Amazon à Dubaï en français. Donc je reçois Power, je reçois Avaler le crapaud, donc je commence par Power. Et quand j'ai commencé à lire Avaler le crapaud, là, j'ai eu un vrai, vrai, vrai déclic parce que c'est un petit livre qui est très facile à lire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le recommande. Et en fait, si tu préfères, je me suis rendu compte que dans ce livre, il y avait pas mal de choses que je faisais déjà inconsciemment. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de méthodes qui ont porté leurs fruits dans le business que je faisais déjà depuis tout le temps, qui étaient déjà en moi. Donc, ça m'a donné un petit peu plus de plaisir à le lire. Et derrière, il y a eu pas mal de choses que j'ai pu apprendre aussi. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, que c'est grâce à ce livre que je suis en train de parler avec toi aujourd'hui. Parce que, par exemple, dans ce livre, ils te disent que sur une année, tu passes à peu près, je ne sais pas, 500 heures au volant de ta voiture. Et ces 500 heures-là, tu pourrais les passer à apprendre en lisant, en écoutant des livres audio ou des podcasts. Et c'est à sortie de ce chapitre du livre que je suis allé sur Google, j'ai tapé podcast, business, bon bref. Et au final, en fait, c'est ce livre qui m'a fait prendre conscience de pas mal de choses, pas mal de qualités que j'avais, pas mal de choses à faire. Et au final, c'est parti de là. En fait, à partir du moment où j'ai lu ce livre, j'ai commencé à écouter tes podcasts, j'ai commencé à améliorer, on va dire, mes skills. Et c'est ce qui m'a donné vraiment l'envie de passer dans le high level du business, si je peux dire ça, bien sûr, attention, aujourd'hui, je suis rien du tout, mais en tout cas, j'ai vraiment envie d'atteindre des sommets, et c'est ce livre-là, Avaler le crapaud, qui m'a donné ce déclic, qui m'a donné vraiment envie de mettre un coup de pied aux fesses et d'aller de l'avant et d'apprendre justement. Et derrière, ben, je suis tombé sur ton podcast et j'ai énormément appris.
Merci pour ça. Merci à quel.
Merci Alec.